Bon, et eh bien alors, puisque c'est moi qui m'y colle, je coupe la parole à Laurent. Non, vas-y Laurent.
Non, je voulais pas te couper la parole non plus.
Oh mais arrêtez là.
Bon allez. Donc, bon. On va parler un petit peu de du lien entre l'anarchisme et la religion. Donc c'est l'idée de du débat qui a lieu tout à l'heure. Du coup, je vais reprendre la petite feuille pour annoncer. Ce débat qui s'appelle Anarchisme et religion, qui a lieu donc sur le salon des éditions libertaires à 15h45 jusqu'à 17h15, qui sera animé entre autres par Daniel Colson qui est ici avec nous et qui va peut-être commencer en rappelant quelle est l'idée de ce débat et après on reparlera peut-être des enjeux et du lien entre anarchisme et religion aujourd'hui puisqu'on a l'impression que ça évolue et nous on a l'impression que ça va pas dans le bon sens mais on en discutera avec toi après peut-être.
Oui, alors donc le but du débat et c'est pas tant de, enfin si dans la discussion il y aura sûrement l'actualité qui sera présente, mais le but du débat c'est de rappeler un certain nombre de faits liés à l'anarchisme pour qui éventuellement donneront des indications sur la façon dont il faut engager des discussions actuellement dans la situation contemporaine. Quoi. Donc je peux peut-être rappeler faits. Donc, il y a des faits historiques et des faits théoriques. Donc, les faits historiques, c'est que l'anarchisme, contrairement à des mouvements comme, marxistes, par exemple, a toujours fait de l'athéisme un objet de combat, enfin un sujet de combat. Donc, il y a un grand nombre de brochures et un grand nombre de textes qui s'en prennent violemment à Dieu et qui disent que l'anarchisme est un athéisme en l'affirmant très nettement. Ce qui est moins le cas d'autres mouvements de gauche ou d'extrême gauche. Donc c'est le premier fait. Le deuxième, c'est qu'historiquement, dans les périodes, dans la révolution russe, moi j'ai pas tellement d'informations, mais sur la révolution espagnole, on sait que cet anticléricalisme et cet anti-religieux va se traduire par des exécutions et des assassinats en grand nombre, puisqu'on estime à peu près à 8000 le nombre de prêtres ou de religieux qui ont été assassinés ou exécutés, en particulier dans les premiers mois de la Révolution espagnole. Alors, ces faits c'est des faits qu'il faut prendre en compte, et ils s'expliquent en partie. C'est-à-dire que l'anarchisme, historiquement, en Espagne, en France ou ailleurs, a toujours été lié à un mouvement... le mouvement radical socialiste, par exemple, pour ce qui est de la France, il y aura un mouvement de la petite bourgeoisie très anticléricale et en lien idéologiquement avec le libéralisme politique et économique, donc lié aux Lumières, lié à Voltaire, etc. Et donc l'anarchisme a eu des liens par la franc-maçonnerie, par exemple, mais c'est le plus visible et le plus discutable, mais des liens dans la pratique. Proudhon est traduit d'abord par des républicains de ce type-là en Espagne. Et il y a un lien entre les deux qui se crée. Donc c'est la première... première. J'ai combien de temps, en fait?
On a une demi-heure.
On a une demi-heure.
Donc ça explique en partie le côté anticlérical de l'anarchisme, anti-religieux de l'anarchisme. Par ailleurs, la violence dont je viens de parler en Espagne, elle s'explique tout simplement parce qu'en Espagne, il n'y a pas eu de révolution française. Et donc, ce qui s'est passé en Espagne en 1936, le mettre sur le dos des anarchistes, c'est un peu exagéré, même si évidemment la rencontre s'est faite sur l'anti-religieux. Mais on peut dire que ça ressemble un peu à la révolution française. C'est en fait les rapports de classe sont d'une violence, c'est un ancien régime avec l'Église qui possède de la terre, etc. Donc il faut l'expliquer un peu comme ça.
Oui, oui, puis l'Église, c'était le système totalitaire, notamment sur les idées, qui imposait beaucoup de choses. Et la lutte pour les révolutionnaires français ou pour le cas de l'Espagne plus tard, s'explique parce qu'on subit cette oppression violente. Du coup, on répond aussi par de la violence, parce que voilà, ça s'explique historiquement, ça se comprend très très bien.
Et un degré de misère immense, quoi. Enfin, dans les régions, c'est...
Oui, justement... Je comprends pas, excusez-moi. Je me disais justement que effectivement la situation, c'était pas juste des petites églises où les gens pouvaient aller prier, etc. C'est que la religion avait un poids qui régissait la société à différents endroits et à différents moments, mais c'est juste pour dire qu'on n'était pas juste avec des petits temples qui parsemaient les villages et tout ça, quoi. C'est idéologiquement, ils étaient présents, quoi.
On dit des églises, hein, le catholicisme.
Ouais, mais ça, c'est mon côté. Je les mets tous dans le même panier.
Pardon. Et donc, du coup, Daniel, quand tu as l'idée de proposer ce débat dans le cadre du salon, est-ce que c'est parce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, on oublie un petit peu ce fondamental de l'anarchisme, qui est qu'il y a de l'athéisme, il y a aussi de l'antithéologie, finalement, est quand même, qui fait partie du corpus idéologique?
Oui, c'est exactement ce qu'on voudrait rappeler. On voudrait rappeler que l'athéisme anarchiste, c'est pas une lubie. Alors donc, je vais peut-être compléter. Oui. C'est-à-dire l'antithéologisme, anti-dieu de l'anarchisme tient à une position théorique fondamentale qui différencie l'anarchisme des courants marxistes ou des courants républicains dont je viens de parler, anticléricaux, libéraux, etc. C'est-à-dire que pour les courants républicains, c'est le progrès. La religion, c'est une illusion, c'est du baratin. Et le progrès va le détruire. Les lumières vont dissiper les brumes de la superstition, comme disaient Voltaire et les autres. Et donc, il suffit de... Les religieux, c'est des arriérés qu'il faut attendre que le progrès, l'école, ça sera le grand moyen de supprimer ça. Le marxisme, de son côté, avec une analyse complètement différente, est très proche, puisque le marxisme considère que la religion est une superstructure et que tout se joue sur le terrain économique et que donc, si on transforme économiquement, tout se fatra de croyances... s'effacera de lui-même. Or, c'est là que l'anarchisme diverge complètement de ces deux positions, et en particulier de la position marxiste, dans la mesure où, pour l'anarchisme, les superstructures dont parlent les marxistes, c'est-à-dire la religion, mais également l'État, ne sont pas des superstructures, justement. C'est-à-dire que tout est infrastructure, si on regarde de près des rapports qui tiennent la société d'un bloc, et donc, en particulier... croire qu'on peut supprimer, attendre que la religion tombe d'elle-même, ça conduit à des erreurs, et donc des erreurs pratiques. C'est là où ça introduit dans des débats concrets, où les divergences qu'il y a, c'est que les anarchistes sont souvent présentés comme archaïques parce qu'ils seraient anti-religieux et athées. Je vais expliquer en quoi c'est rien d'archaïque. Quant aux autres, comme ils considèrent que la religion, c'est secondaire, ils vont donc mettre en avant la lutte des classes, la lutte anticoloniale, etc. Et ils vont avoir tendance à être très indulgents envers les religieux. Donc, je ne vais pas remonter à des données historiques. Je ne veux pas rentrer dans le débat sur la situation actuelle, mais dans les données historiques, le Parti communiste, ce n'est pas simplement de la tactique. Quand il tend la main aux catholiques en 1936, c'est qu'effectivement, il pense que le catholicisme se dissipera comme une fumée. Et donc, il y a une espèce de sous-estimation du phénomène religieux. Et donc, la grande originalité de l'anarchisme, c'est de développer une anthropologie qui, au contraire, donne une importance déterminante aux faits religieux. Ce qu'il faudrait peut-être expliquer, mais ça devient...
Ouais, parce que, juste pour repréciser, c'est pas simplement... l'anarchisme n'a pas condamné simplement la religion, c'est-à-dire la structure organisée, etc. C'est les croyances aussi, quoi. Ça remonte, ça va très très loin dans la dénonciation de tout ce qui tourne autour de Dieu et de la religion. Et Dieu n'existe pas et le problème est réglé.
Ou même du mysticisme, d'ailleurs.
Ou même du mysticisme, tout à fait.
Tout ce qui est croyance, l'astrologie, des choses comme ça. Quoique, il y a eu des anarchistes qui étaient spirites, hein, donc ça devient plus compliqué.
Il y a des contre-exemples
dans l'histoire. Voilà. Mais c'est vrai que, dans ce que tu décris, tu disais que tu voulais pas forcément rentrer dans ce qui se passe aujourd'hui, mais pourtant on voit que dans les débats actuels, le religieux devient un petit peu un facteur de crispation dans un sens ou dans l'autre, y compris dans des sphères libertaires, faut qu'ils se disent comme tels, où si on affirme par exemple un positionnement anti-théologique, donc anti-religieux, on est très vite catalogué, alors tu disais comme archaïque ou comme voilà. Et justement, tu voulais expliquer en quoi c'est pas archaïque, et je pense que ça éclaire,
ça, c'est important, ouais.
Ça éclaire le débat d'aujourd'hui, en fait.
Oui, donc il y a au moins un aspect qui permet de rentrer dans ce débat et qui permet de comprendre, c'est la question de l'État. Les anarchistes ont toujours dit que l'État était un des fondements de la domination. Les marxistes ont longtemps pensé, ont longtemps dit que c'était se fixer sur une idée fausse, etc. Or, historiquement, maintenant, on a la preuve que... On a la preuve que l'État se transforme en dictature et peut sécréter des bureaucraties, des classes supérieures dominantes, etc. Donc ça, c'est la... Alors, bon, du coup, c'est assez compliqué quand même. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que l'anarchisme a une conception liée à la critique du pouvoir, qui est une conception anthropologique suivant laquelle il y a une espèce de fondement commun à tout ce qui existe, et qui repose sur le fait que la société, notre société, pour fonctionner, elle est collective. Elle suppose la coopération, l'association, et elle suppose que des forces s'unissent pour produire un pain, pour produire... Tout le monde a besoin de cet échange. Or, ces associations produisent des résultantes, c'est-à-dire le chef, le patron, par exemple, qui dirige la grande boulangerie. Et ces résultantes, elles vont avoir tendance à se rabattre sur les forces qui les produisent et donc à devenir dominantes et divines, ou étatiques ou autres. Donc l'idée, c'est Proudhon qui développe ça, c'est que les êtres humains, mais il n'y a pas que lui, les êtres humains sont désappropriés de leurs forces. Et donc, d'où l'importance qu'ont eu dans l'histoire de l'anarchisme et de l'émancipation, les grèves, puisque les grèves, c'est le moment où les forces collectives, où le résultat, le capital, donc le patron dans son château qui dit « je donne du travail à mes ouvriers », etc., brusquement, il est nu, enfin, il a toujours son château, sur lui, j'ai pas trop de cailloux dans les fenêtres, mais il découvre que l'entreprise qu'il identifie à sa personne, c'est pour ça qu'il est si gros au XIXe siècle, et en fait, le résultat d'une... Donc c'est toute la théorie économique de Proudhon. Mais cette théorie, il l'applique sur le politique, les rapports de force. L'État, c'est... Il montre comment la famille, le clan, au début, c'est... Il y a un roi. Le roi, c'est le chef qui a plus de femmes. Enfin, non, ou c'est parce qu'il est chef qui a plus de femmes, on ne sait pas. Et donc, ça donne naissance à un appareil qui monopolise l'autorité... politique, la force, qui monopolise la force et qui se donne des appareils pour donner un corps, mais le corps de l'État ou le corps divin, on va en parler, c'est un corps, c'est des cérémonies, les grandes manifestations de masse en Corée du Nord, mais enfin on les a connues dans plein d'autres pays à une autre époque, donc on lui donne un corps comme ça. Et donc pour Proudhon, le capital sur le terrain économique, l'État sur le terrain politique et Dieu sur le terrain imaginaire et représentatif sont homologues. Voilà, c'est ça, c'est le concept qu'emploie Proudhon. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas combattre l'un sans combattre l'autre. Mais ça va plus loin. Donc là, à ce moment-là, il y a Bakounine, donc tu faisais allusion, je pense, à l'État, Dieu et l'État. Et l'antithéologisme, c'est une partie essentielle de la pensée de Bakounine. Donc, en fait, Dieu, c'est quelque chose d'imaginaire, de non réel, mais qui est la clé de voûte de la croyance. Or, la société, elle tient beaucoup à la croyance. C'est-à-dire que celui, le patron qui donne du travail à ses ouvriers, on vient le voir, les patrons archaïques du 19e siècle, et ça fonctionne que sur la base d'une croyance qui suffit que tous les ouvriers de l'usine n'y croient plus pour que l'usine s'arrête. Et donc, tous les débats qui ont eu lieu sur la situation depuis 30 ans, dont je pense au bouquin de Boltanski sur l'esprit sur 68, enfin, il a fait un bouquin là-dessus, c'est évident que dans cette période des années 60, il faudrait faire un truc historique, la croyance, c'est qu'on va vers l'étatisation, on va vers la nationalisation, et le patronat doute beaucoup de lui-même. Il est pas dans le... Ils doutent et du coup, ça donne une force très grande à ceux qui s'opposent. On est passé, depuis 30 ans, à une situation complètement inverse, où la société peut s'effondrer, l'économie peut s'effondrer, les économistes vont continuer de croire mordicus à leur schéma et à leur analyse. Donc on est bien sur le terrain de la croyance, et Dieu, c'est l'un qui contrôle le multiple, alors que les anarchistes disent qui est premier, c'est pas l'un, c'est le multiple, et l'un, c'est la résultante du multiple. Mais cette résultante, elle se met... Je ne sais pas si c'est très clair, mon explication.
Si, si.
D'où le caractère indispensable de dénoncer... Vous pouvez rentrer.
Il y a des gens qui visitent le studio, tout va bien.
De dénoncer tout imaginaire fondé sur l'un. Donc c'est vrai que ça vise davantage, il faudrait rentrer après. Peut-être qu'on va y revenir, vous avez peut-être des trucs à dire là.
Non mais tu peux continuer, hein, nous, on t'écoute.
Là, sur le fait, donc je voudrais convaincre nos auditeurs.
Et auditrices,
merci. Ouf, j'ai échappé de justesse. Il faudrait les convaincre que la lutte, la dénonciation de Dieu est un élément fondamental de l'émancipation et de la liberté. Et que la moindre concession à cette croyance... sous prétexte que c'est secondaire, etc., c'est une erreur. Du point de vue anarchiste, c'est manifestement une erreur. Donc les représentations religieuses, c'est la façon dont les êtres humains pensent leur propre existence dans le monde. Et la pensée, son existence dans un monde qui est dominé par un créateur qui a créé le monde et qui est Dieu, c'est... se donner déjà des cadres de pensée qui empêchent de penser toute émancipation et qui s'opposent à la vie matérielle des êtres humains.
C'est ça. Pour moi, ça m'a toujours un peu semblé des fois bizarre. On ne peut pas vouloir, en tout cas c'est ma vision encore une fois, vouloir justement s'abolir, se défaire de toute domination, que ce soit patronale, que ce soit de genre, que ce soit de plein de choses.
Et si on a une domination religieuse au-dessus.
En plus, c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, on va se soumettre à quelque chose qui en plus est totalement immatériel, quoi, et qu'on ne voit pas.
Mais qui a des corps armés, des prêtres, l'inquisition, les djihadistes, etc.
Mais d'ailleurs, tu soulignais qu'il y avait un parallèle entre l'État et l'Église, finalement, enfin les Églises, une analogie. Mais du coup, on voit bien que dans le mouvement actuel, où on a l'impression justement que l'État recule un peu, que le patronat est puissant, la religion sert aujourd'hui de moyen de pression pour revenir en arrière, c'est-à-dire on revient à l'idée de communauté autour du religieux, en disant ça c'est bon pour eux, ça c'est pas bon pour eux, et que du coup on retrouve la division de ce corps que tu disais, c'est-à-dire des forces, alors il y a des gens qui emploient le mot peuple, c'est un truc un peu étrange,
matériel.
Et on voit bien qu'aujourd'hui on se sert de la religion pour resubdiviser ces forces-là. Là où on ne pouvait plus le faire sur un aspect purement économique, on le fait sur un aspect religieux. Donc on voit bien qu'il y a un lien indéfectible, quoi, entre les deux.
Et puis la lutte anticléricale, aujourd'hui, elle est pas beaucoup présente quand même.
Ouais. Non, mais elle n'est pas présente. Pourquoi ? Parce que l'Église, elle peut revenir. Nous, les religions, la religion majoritaire en France, elle est quand même en très mauvais état.
Oui.
Donc,
on lui a mis des coups, tu veux dire.
Faut pas tirer sur les ambulances. Donc le problème. Mais moi, j'aurais une petite divergence par rapport à ta formulation. C'est qu'il n'y a pas. La religion n'est pas utilisée par quelqu'un d'autre. Parce que là, c'est typiquement un schéma marxiste.
C'est
de dire que la religion, c'est rien. C'est l'opium du peuple qu'on lui administre avec des seringues. Quoi. Or, la position anarchiste, c'est pas ça du tout. C'est de dire la religion, au contraire, c'est le nerf, c'est la cause, le fondement. Je sais pas, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer.
Ça. C'est moi qui ai mal formulé.
Je me retrouve comme un professeur. Oui, alors vous me copierez 10 fois. Oui, je voulais ajouter encore un point. Ça veut dire que pour l'anarchisme, si on considère, parce que je voudrais lire un petit texte à la fin, si pour l'anarchisme on considère que les représentations religieuses, c'est une manière de se représenter le monde et la réalité. Ça veut dire que la réalité, elle est soumise à la domination, mais elle a des aspects émancipateurs partout. Donc même chez les imams et les curés. J'exagère volontairement. Donc ça veut dire que dans la vision anarchiste, elle sait reconnaître historiquement des manifestations émancipatrices. Donc je vais dire un peu des choses contraires à ce que vous avez dit au début. Ça explique, je vais donner deux exemples. Donc ça veut dire que l'anarchisme va reconnaître des aspects positifs dans les représentations religieuses. Il ne va pas créer un autre monde, faire table rase, etc. Non, c'est de restructurer de l'intérieur et il y a des aspects positifs. Et donc l'aspect positif, c'est justement toute la dimension mystique, même si elle est dévoyée. C'est-à-dire toute dimension religieuse où le croyant pense rentrer en rapport direct avec Dieu. Donc rentrer de manière directe dans un rapport avec Dieu, c'est court-circuiter, c'est une démarche que l'on peut qualifier d'anarchiste, qui explique les grandes révoltes qui ont pu avoir lieu, même si elles se transforment. Ce n'est pas anarchiste au sens où il manque des conditions qui font que souvent ça se passe très mal, y compris les assassinats de milliers de gens. Je pense aux hussistes, enfin, toute l'histoire religieuse est parcourue. Mais il y a des religions qui permettent, si on prend le taoïsme par exemple, qui n'est pas un monothéisme, on s'aperçoit que c'est lié à des luttes sociales et paysannes très fortes. Donc ça veut dire que sous sa forme mystique, même si alors la forme religieuse est condamnable, mais il y a cette démarche de maîtriser soi-même sa vie et ce à quoi on croit. Donc l'exemple, on n'a pas beaucoup d'exemples contemporains, mais je signale le bouquin de Michael Lowy sur le judaïsme libertaire en Europe centrale, qui montre cette rencontre entre le messianisme juif, qui devient athée sans messie, etc., et qui rencontre l'idée de grève générale, par exemple, ou les grandes idées de l'anarcho-syndicalisme. Ce livre, Utopie et Rédemption, ça a été réédité récemment. Voilà, deuxième aspect, on va finir sur une note humoristique, mais qui n'est pas du tout, elle est très théorique, c'est que Bakounine et Proudhon reconnaissent quelque chose de très juste dans les représentations religieuses, pour penser la révolte et l'émancipation, c'est la figure du diable. C'est-à-dire que la religion, elle n'échappe pas à la nécessité de stigmatiser, alors c'est instrumentalisé aussi un peu, mais de stigmatiser la révolte, mais en même temps, ça c'est l'aspect. Mais l'autre aspect, c'est que la religion ne peut pas échapper à la nécessité de rendre compte de la révolte et du fait que le diable, c'est celui qui dit non à Dieu. Et donc, Bakounine et Proudhon ont beaucoup de textes. C'est pour ça que je voulais vous lire un texte de Proudhon pour terminer, en attendant. Alors ce texte, je fais des petites remarques pédagogiques. Il est à la fois provocateur, parce qu'il est dans un livre qui est adressé à l'archevêque de Besançon. Il est provocateur, humoristique et sérieux et théorique. Voilà. Donc je vais vous le lire. C'est le style extraordinaire de Proudhon. « Viens, Satan, viens, le calomnier des prêtres et des rois, que je t'embrasse, que je te serre sur ma poitrine. Il y a longtemps que je te connais, les diables, on les connaît tout petits. Il y a longtemps que je te connais et tu me connais aussi. Tes œuvres, ô le béni de mon cœur, ne sont pas toujours belles ni bonnes. » Voilà, ça c'est là où ça devient théorique. « Mais elles seules donnent un sens à l'univers. » Alors, la dernière phrase a une portée théorique très grande et l'empêche d'être absurde. C'est-à-dire que le diable, c'est celui qui donne. Bon,
merci. Donc, ça vous a donné envie tous d'aller à ce débat tout à l'heure.
Je précise que cette référence au diable n'a strictement rien à voir avec le satanisme, on est bien d'accord.
Oui, tout à fait. On l'avait bien compris comme ça. Donc tout à l'heure, débat 15h45, 17h15, anarchisme et religion au Salon des éditions libertaires.
On est nombreux.
Merci Daniel.
Merci Daniel.